Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, je vais vous faire une confidence. Quand j'étais enfant, le rêve qui a traversé vraiment des centaines de mes nuits était celui au cours duquel, échappant au prix d'une concentration extrême à l'attraction terrestre, je parvenais lentement, mais alors vraiment très lentement, à m'élever dans les airs pour bientôt voler en déployant mes bras comme des ailes. Eh bien ce rêve qu'on a tous fait, Nicolas Vanier, aventurier du Grand Nord, écrivain et cinéaste, l'a réalisé, et mieux encore, grâce à l'ornithologue et météorologue visionnaire Christian Moulec, dont le grand projet de vie est d'apprendre aux oiseaux migrateurs en voie de disparition de nouveaux itinéraires migratoires pour échapper à la folie des hommes. Cette aventure hors du commun est donc devenue un film intitulé « Donne-moi des ailes », déjà en salle, avec à l'affiche Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutet et Louis Vasquez, un roman et un album magnifique tiré du film, les deux derniers donc baptisés également « Donne-moi des ailes » et paru chez IXO Éditions. Imaginé et façonné, bien sûr, par mon invité cet après-midi, Nicolas Vanier.
Europe 1.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, cher Nicolas, ce film, ce roman, tout est donc parti d'un vol. Un vol en ULM à 500 mètres d'altitude, 800 mètres, peut-être 1000, vous allez nous raconter, avec des oies en escadrille, confiantes et pour une fois complices de l'homme. Vous n'imaginiez pas ce jour où, pour la première fois, vous êtes monté donc dans les airs avec des oiseaux, à quel point ça allait bouleverser votre vie d'homme et votre vie professionnelle ?
Moi, j'ai toujours été un passionné des oiseaux. Je vis en Sologne, dans la forêt. J'ai construit beaucoup de cabanes dans les arbres, de plus en plus haut d'ailleurs, pour être près du ciel et des oiseaux. Alors, je les connais bien, mais j'imaginais pas une seule seconde, effectivement, que de me retrouver comme ça au milieu d'eux, tellement proche que parfois leurs ailes viennent vous caresser la joue, que vous pouvez les caresser, ressentir cette émotion.
Attendez, je vous arrête tout de suite. Ouais. La sensation hallucinante, caresser une oie sauvage en plein vol à des centaines de mètres d'altitude.
On s'imagine que c'est pas possible. Et puis effectivement, lorsque je me suis retrouvé là-haut, au-dessus des paysages du Cantal en automne, Christian Moulec, qui est donc la personne avec laquelle j'ai effectué ce vol et ce film, m'a expliqué, m'a dit comme ça, tu peux les caresser. Et ce qui est incroyable, c'est que les oies vous regardent, l'air de dire « attention, il ne faut pas appuyer trop fort sur mes petites plumes parce que c'est ce qui permet de me diriger ». Enfin, c'est bouleversant. Et d'être comme ça au milieu des oies, de voler avec elles, de faire presque partie du vol, c'est effectivement une émotion absolument incroyable. D'où effectivement mon envie qui a été immédiate d'en faire quelque chose.
Mais c'est l'ornithologue Christian Moulec qui vous avait lancé l'invitation, c'est ça ?
Oui, c'est par l'intermédiaire d'un ami commun que voilà, ce fou passionné qui donc du coup bien évidemment m'intéressait, m'a fait parvenir cette invitation à venir voler avec lui. Il avait déjà en tête pourquoi pas l'idée d'en faire un film.
Ouais.
Et donc voilà, on s'est rencontrés là-haut.
Mais il fallait vous initier. Mais alors, je voudrais savoir concrètement, Nicolas Vanier, ça s'est passé comment ? Parce que vous êtes monté à deux dans son ULM, par temps clair. Dans une région donc propice à l'exercice, vous venez de parler du Cantal. Et comme ça, tout ce petit monde, les oiseaux et vous, miraculeusement, vous êtes envolés. Complice.
Alors, ce n'est pas miraculeusement, parce que tout cela est le résultat d'un travail qu'on appelle l'imprégnation. L'imprégnation, c'est que certains animaux sur cette planète reconnaissent pour parent le premier être vivant qu'ils voient. Et donc, une petite oie, lorsqu'elle naît, lorsqu'elle crève la coquille d'un œuf, si elle voit un être humain, en l'écrivant, par exemple Christian Moulec, ça devient son papa, sa maman qu'elle va suivre indéfiniment. Et Christian Moulec s'est imaginé qu'en faisant entendre et en habituant aux petites oies à un bruit de moteur, il allait pouvoir voler avec elles et donc pouvoir effectivement changer leur itinéraire migratoire, sachant que c'est précisément ce qui a causé leur disparition, à savoir que elles traversent depuis des millénaires des zones qui sont devenues aujourd'hui tellement urbanisées qu'elles n'ont plus la possibilité de pouvoir se poser, se reposer, se nourrir. Et donc la seule possibilité pour pouvoir sauver cette espèce, qui en l'occurrence sont ces oiseaux avec lesquels on a fait ce film, eh bien était de reprogrammer en quelque sorte le petit GPS extraordinaire qu'elles ont dans la tête en volant avec elles. C'est ce que Christian a réalisé, ce que j'ai fait avec lui, ce que j'ai trouvé absolument époustouflant.
Alors, vous évoquiez à l'instant, en fait, les raisons qui font que ces oies sauvages sont en voie de disparition et qu'il est vraiment urgent de leur apprendre d'autres itinéraires migratoires. Il y a la pollution urbaine, c'est ça. Il y a en fait le nombre d'avions qui tracent dans le ciel. Il y a la luminosité. C'est quoi les plus grands dangers ?
Il y a beaucoup de raisons. D'abord, ce qu'il faut savoir, parce que le chiffre est quand même absolument hallucinant, c'est qu'on a perdu 420 millions d'oiseaux en 30 ans dans le ciel européen, c'est-à-dire un tiers des oiseaux. Un second tiers va disparaître parce qu'on ne fait absolument rien pour que ça change. La question est de savoir si on veut, si on va pouvoir sauver aujourd'hui le dernier tiers. La cause de la disparition des oiseaux, pour ceux qui ont à peu près mon âge, c'est facile de le comprendre. On se rappelle tous qu'il y a encore 20 ou 30 ans, lorsqu'en été, on traversait pendant une ou deux heures la France en voiture, on avait le pare-brise qui était criblé d'impacts d'insectes.
Et hélas, aujourd'hui, il est nickel.
Il est nickel.
Après avoir fait quelques centaines de kilomètres.
Et tout le monde sait, ou à peu près, que les jeunes oiseaux se nourrissent d'insectes. Et effectivement, c'est la première cause de disparition des oiseaux. À cela s'ajoute bien évidemment cette urbanisation galopante, l'assèchement de toutes ces zones humides qui sont absolument essentielles aux oiseaux. Et donc, cette solution que propose en tout cas pour les oiseaux migrateurs Christian Moulec n'est pas la seule qu'il faut mettre en œuvre, parce que ce qu'il faut, c'est aller à la base du mal, qui est effectivement faire revenir la biodiversité, faire revenir les insectes, faire revenir les oiseaux, passe par un changement complet d'un certain nombre de choses.
Voilà. Mais en attendant, en tout cas, Christian Moulenc, qui est donc à l'origine en fait, de ce film, puisqu'il vous l'a inspiré, Christian Moulenc a réussi à voler avec ses oies en escadrille de la Scandinavie jusqu'en Allemagne. Il a donc prouvé qu'il était possible de leur apprendre un nouvel itinéraire migratoire. Mais il s'est heurté à l'administration européenne qui a refusé de délivrer les autorisations afin de réitérer l'expérience avec davantage d'oiseaux migrateurs et qui a refusé l'installation d'une colonie d'oiseaux. Avec ce film et vos livres baptisés Donne-moi des ailes, vous poursuivez en quelque sorte le combat de Christian Moulec, c'est ça, Nicolas Vanier ?
Oui, au-delà de la réalisation du film, le rêve de Christian est devenu le mien parce que je pense qu'il n'y a pas quelque chose de plus beau qu'on puisse faire dans la vie que de sauver une espèce. Et effectivement, nous savons aujourd'hui que pour sauver une espèce comme celle qui est le sujet du film, qui sont ces magnifiques petites oies naines,
voilà,
il faudrait réitérer l'expérience qui a réussi donc, de Christian avec au moins 200 ou 300 oiseaux pour avoir une population minimum qui puisse se reconstituer.
Et 200 ou 300 oiseaux, une colonie pareille, ça gêne, ça contrarie en fait l'administration européenne.
C'est pas cela qui contrarie, c'est qu'il y a différents pays, pour les citer en l'occurrence, c'est la Norvège, la Suède et l'Allemagne, qui ne sont pas du tout d'accord aujourd'hui sur quelle politique adopter pour pouvoir faire en sorte que ces oiseaux, en guillemets, reviennent. Et donc, ils s'opposent, pour ne pas dire plus. Et comme nous avons besoin, pour effectuer ce voyage, des autorisations des différents pays traversés, voilà, nous espérons, les choses sont en train de bouger un petit peu, les lignes sont en train de bouger, qu'avec ce film, avec des appuis politiques qu'on a pu obtenir à droite à gauche, on obtienne cette autorisation.
Europe. Quel défi, quel challenge. Je reçois cet après-midi l'aventurier, écrivain et cinéaste Nicolas Vanier. On fait une pause très courte, on se retrouve tout de suite.
Europe 1. Jusqu'à 16h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Cet après-midi, Isabelle Morizet reçoit un cinéaste qui nous reconnecte à la nature sauvage, Nicolas Vanier. Son dernier film « Donne-moi des ailes » réunit Jean-Paul Rouve et Mélanie Douté, film toujours à l'affiche.
Alors Nicolas Vanier, on l'a dit donc, ce sont des espèces migratrices, les oies, mais elles ne peuvent effectuer leur trajet migratoire que si elles l'ont mémorisé avec leurs parents. Dans votre film, vos héros, qui sont donc incarnés par Jean-Paul Rouve, Mélanie Douté et Louis Vasquez, se substituent donc aux parents des bébés oies dès leur naissance. C'est le phénomène que vous avez évoqué tout à l'heure d'imprégnation. Mais il ne suffit pas d'être sans cesse présent et de donner à manger aux oiseaux. L'apparence compte également, c'est étonnant ça.
Oui, ce qu'il faut, c'est que ces oiseaux puissent redevenir sauvages, restent sauvages, c'est-à-dire qu'ils craignent les hommes. Et pour ça, il faut que les parents, entre guillemets, adoptifs, n'aient pas l'apparence d'humains. Et Christian a donc imaginé de se recouvrir, ce qu'il a fait lors de cette expérience, d'une robe de bure et d'une sorte de casquette avec un voile qui donne une forme qui n'est pas une forme humaine.
Oui. Ce pas qui identifié fait, par les oiseaux,
voilà,
en tout cas.
Ce qui fait que cette forme n'est pas identifiée par les oies comme un être humain dont il faut qu'elles aient peur, bien évidemment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces oiseaux, en dehors du fait qu'il y a cette expérience de l'imprégnation, on se base aussi sur le fait, qui est assez incroyable, que ces oies ne reconnaissent pas comme lieu de naissance l'endroit où elles naissent, mais l'endroit où elles volent pour la première fois. C'est-à-dire qu'une petite oie qui naît en Camargue ne va pas reconnaître comme lieu de naissance la Camargue, mais elle va reconnaître comme lieu de naissance, en l'occurrence la Laponie, l'endroit où on va l'emmener pour voler pour la première fois. Et c'est donc là où elle va revenir, après avoir effectué avec un homme un voyage depuis la Laponie jusqu'à la Camargue. Elle va ensuite se réensauvager pendant tout un hiver, peu à peu, et repartir au printemps toute seule. Et c'est là où c'est absolument sidérant et incroyable. C'est ce qu'on a vécu d'ailleurs pour le film, c'est que les oies vont reprendre très exactement l'itinéraire qu'elles auront donc effectué avec un homme en ULM sur 2000
km. Mémorisé. Alors, elles sont grandioses, les images de votre film. Certaines prises de vue sont faites dans le ciel de Norvège, au-dessus des fjords. Et je précise qu'il n'y a pas une seule image de synthèse. Hein. Aucun oiseau reconstitué en plein ciel, numériquement, alors que la technologie aujourd'hui le fait à s'y méprendre. Donc vraiment, la vérité, c'est votre marque de fabrique.
Oui, définitivement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à fabriquer des êtres humains et des oiseaux et des animaux plus vrais que nature, qui ont toujours cette imperfection, parce que justement, ils n'ont pas les imperfections de la nature. Ils sont trop parfaits et on finit par ressentir un malaise qu'on a du mal concrètement à analyser, mais on sent quelque chose qui est faux. La première fois où j'ai rencontré Jean-Paul Rouve, je ne lui ai pas parlé comme on parle généralement.
Comme un metteur en scène parle à son futur acteur.
Je lui ai parlé de l'aventure qu'on allait vivre. Je lui ai dit, avant de faire un film, on va vivre une aventure. Le patron de ce film, contrairement à d'habitude, ça ne sera pas l'acteur vedette qui fera des caprices ou le réalisateur qui
dirigera. Ce sont les oiseaux.
Ça sera les oiseaux. C'est eux qui décideront. Et en l'occurrence, lorsque les petites oies ont commencé à taper avec leur bec dans leur coquille, on n'a pas pu leur dire, ben non, demain c'est samedi, c'est le week-end, les acteurs sont pas là, on tourne pas. C'était les oiseaux, les patrons, et c'est en cela aussi que le tournage de ce film était extraordinaire. Compliqué, mais extraordinaire.
Alors, justement, on va en parler de la complication de ce tournage, mais si fascinante. Ça vole à quelle vitesse des oies, Nicolas Vanier ?
Bah, des oies, c'est entre, on va dire, 30 et 50 km/h. Et effectivement, le seul appareil volant qui puisse permettre de voler à cette vitesse-là, bah, c'est l'ULM, hein, ce petit engin qui est grosso modo un moteur de tongo, deux à gazon avec une petite voile dessus, quoi, un engin extrêmement fragile, mais qui permet effectivement de pouvoir voler à la vitesse des oies.
À la vitesse des oies. Bon, 500 mètres d'altitude, 600, 700, sans aucune vibration, avec une image stable et un horizon qui n'oscille pas. Ça demande des caméras hyper performantes avec GPS. En fait, la technique, elle a beaucoup évolué depuis le tournage du Peuple migrateur de Jacques Perrin.
Oui, nous n'aurions pas pu faire le film qu'on offre aujourd'hui aux téléspectateurs il y a encore 3 ou 4 ans. Parce qu'effectivement, pour pouvoir voler avec des oies, il faut donc voler avec ce petit engin qui est un ULM, c'est le seul. C'est un engin qui ne permet pas d'emmener beaucoup de volume et surtout beaucoup de poids. Et il n'existait pas, il y a encore 2 ou 3 ans, les matériels, on va dire, techniques extrêmement sophistiqués, dont très très peu de poids et de volume, qui permettent effectivement d'utiliser, d'obtenir ces images incroyables qui font que le spectateur a l'impression d'être au milieu des oiseaux.
Oui, il est dans l'escadrille.
Il n'y a rien qui m'a plus ému que de savoir, et je l'ai vu, que dans de nombreuses salles, il y a des enfants entre 5 et 10 ans qui tendent la main pour essayer de caresser les oiseaux, tellement ils ont l'impression d'être au milieu des oiseaux dans une salle de cinéma.
Il y a un exploit technique plus fou que les autres au cours de ce tournage de Donne-moi des ailes.
Ce qui a été très très compliqué, c'est d'aller effectivement capter ces images incroyables dans ces fjords de Norvège où il y a une météo extrêmement instable, à savoir que les oies ont leur humeur déjà. Et qu'en dehors de leur humeur, elles ne peuvent voler que dans certaines conditions atmosphériques. Et donc, pour pouvoir concilier à la fois du matériel de prise de vue, un vol avec des oies, c'est déjà excessivement compliqué quand tout va bien. dans des fjords en Norvège, ça n'arrive jamais que tout aille bien. Il y a beaucoup de tourbillons, de vents contraires. Et donc, ça a été excessivement compliqué. Je tenais absolument à ce qu'on puisse obtenir ces images-là. Mais pour les obtenir, ça a été un vrai combat. Et puis surtout, une satisfaction absolument incroyable lorsqu'on les obtient.
Europe 1. Il est 15h22. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Nous sommes avec Isabelle Morizet et son invité, un écrivain, cinéaste sensibilisé à l'extinction progressive des oanennes et des oiseaux en général. Il en a d'ailleurs fait un film.
Donne-moi des ailes est le titre à la fois du nouveau film et du nouveau roman de Nicolas Vanier, cet après-midi, mon invité. Roman qui paraît chez XO Éditions. Alors, cher Nicolas Vanier, pourquoi un très jeune homme de 17 ans, ayant grandi dans une ferme en Sologne, cerné par des forêts profondes où courent cerfs et sangliers, pourquoi ce très jeune homme ne rêve-t-il que d'espace de glace du Grand Nord, au point de partir en Laponie, comme pour le repérage de sa première expédition, partir en Laponie qui va traverser à pied, seul, l'année suivante. Ça ne vous suffisait pas, en fait, la Sologne?
C'est difficile à expliquer d'où vient une passion. Hein. C'est un petit peu comme lorsqu'on demande à un musicien d'où vient l'amour de la musique. Moi, j'ai toujours eu ça en moi. Mes parents me disent que, déjà, lorsque j'avais 6 ou 7 ans, je regardais le haut des cartes, ces grands espaces enneigés. Lorsque j'ai commencé à savoir lire, je ne voulais lire que des romans de Jack London et compagnie. C'est, je crois, l'attrait du sauvage qui était déjà cette envie, ne serait-ce que chez moi en Sologne, de partir des journées entières dans la forêt, d'aller à la rencontre des cerfs, des sangliers, de vivre dans les arbres. Et effectivement, assez vite, je me suis rendu compte que cette forêt qui me paraissait infinie, elle avait pour...
Elle était bordée par des autoroutes.
Limite, des autoroutes, des grillages, des zones industrielles. Et j'ai eu cette envie de grand sauvage et ces envies de nord, de grand nord, une envie irrésistible, irrésistible.
Mais cette fascination pour le Grand Nord, justement, elle implique la notion de dépassement de soi. Pourquoi a-t-on le sentiment que les grands aventuriers sont ceux qui choisissent en fait de se frotter au Grand Nord plutôt qu'au Grand Sud, alors que la traversée de certains déserts, comme en Libye, en Kabylie ou au Nevada, est parfaitement mortelle?
C'est pas le dépassement de soi pour un
de
gamin
qui rêve... De l'extérieur, on pense ça comme ça.
De l'extérieur. Lorsqu'on vient me voir et ça arrive pour me dire oh, « Mais quel courage vous avez fait preuve pour traverser comme ça par moins 50 la Sibérie !» Je réponds, et c'est très vrai, mais non, du courage, il m'en faudrait pour passer 3 mois dans un bureau à la Défense.
Traverser la Laponie seul à l'âge de 17 ans, c'est pas anodin.
C'est pas anodin. Mais lorsque j'avais 9 ans, mes parents m'ont retrouvé sur le balcon en plein hiver, en train de dormir dans un sac de couchage. Et ils m'ont demandé pourquoi. Et je leur ai dit, parce qu'il faut que je me prépare à mes voyages futurs. Donc mes parents étaient un petit peu sidérés. Mais
on peut parler de vocation, là.
Tout ça pour dire que c'était une espèce de suite un petit peu logique, avec une certaine dose de préparation.
Alors, je reviens à la toute première aventure. Vous étiez encore mineur quand vous avez pris un train, Gare du Nord à Paris, donc un train grâce à un pass étudiant qui vous a amené tout en haut de l'Europe en traversant l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Norvège et enfin la Finlande pour découvrir la Laponie. Qu'est-ce que vous aviez embarqué dans votre valise d'adolescent pour affronter vos premiers grands froids dignes des pôles ?
J'avais essayé de me préparer le mieux possible, mais je mesure à quel point, avec le recul, j'étais effectivement mal préparé. Donc, j'étais parti avec le minimum de ce qui me paraissait essentiel. Et en l'occurrence, je me souviens que nous avions imaginé, parce que nous étions 3, pouvoir nous nourrir de quelque chose qu'on savait très bien faire, qui était de pêcher. Et nous savions qu'en Laponie, il y avait énormément de lacs, de rivières pleines de poissons, de saumons, de truites et autres.
Et vous avez réussi à pêcher ou pas ?
Ça a très bien fonctionné pendant les 3 ou 4 premiers jours qui nous ont permis de nous enfoncer très loin, au-delà de toute ville dans laquelle on peut effectivement trouver de quoi se nourrir dans les magasins. Mais il se trouve qu'il y a eu une brusque chute des températures et tous les pêcheurs qui nous écoutent savent que dans ces cas-là, ça ferme la bouche des poissons. Et on s'est retrouvés dans une situation un petit peu critique, à errer sur les hauts plateaux lapons, où grâce au ciel, on est tombé sur des éleveurs avec cette odeur absolument délicieuse de ce qu'on appelle la bannique. C'est une sorte de pain qui était en train de cuire et la viande de renne et le pain des éleveurs de Rennes nous ont sauvés de ce mauvais pas, mais toujours est-il que j'ai commencé là à apprendre qu'on ne pouvait pas que se nourrir avec une canne à pêche lorsqu'on partait dans le Grand Nord. Mais j'ai appris bien plus que ça. Ce rêve que j'avais de Grand Nord était une réalité. Et moi, mes rêves de Grand Nord, j'imaginais que confronté à la réalité, peut-être tout allait s'effondrer. Et ça a été l'inverse.
Et ça a été l'inverse.
Je pensais qu'à repartir.
Il est revenu avec des rêves plein la tête pour mieux repartir. On retrouve tout de suite Nicolas Vanier, cet après-midi, mon invité.
Europe 1. 15h30, on retrouve Isabelle Morizet pour la suite de son entretien avec l'aventurier cinéaste Nicolas Vanier pour parler de son dernier film, notamment « Donne-moi des ailes », qui est aussi un roman paru chez XO Éditions. Il parle également de sa passion pour les grands espaces, la nature et les oiseaux migrateurs.
Alors Nicolas Vanier, on évoquait à l'instant votre tout premier périple à l'âge de seulement 17 ans au cercle polaire arctique. En Aponie, donc en 1979, le rêve était au rendez-vous. Magie scintillante des étendues de neige et de glace, forêt somptueuse des conifères dans la taïga. Or, vous dites qu'aujourd'hui, en Laponie, les forêts sont ivres. Alors, la formule, elle est aussi poétique qu'inquiétante. Ça signifie quoi, des forêts ivres ?
Eh bien, c'est effectivement une des manifestations les plus visuelles et peut-être concrètes de ce qu'on appelle et de ce qu'on connaît bien aujourd'hui, qui s'appelle le réchauffement climatique, qui fait qu'il est en train, dans certains endroits de Sibérie, de Laponie, d'Alaska aussi, de dégeler ce qu'on appelle le permafrost, qui est cette couche de sol gelée en permanence depuis toujours.
Ouais.
Et c'est une sorte de ciment naturel sur lequel tout tient dans le Grand Nord, les forêts, les villages. Et sous l'effet effectivement du réchauffement climatique, qui n'est pas de l'ordre de 1 degré comme en France, mais parfois de 3 ou 4 ou 5 degrés dans ces zones arctiques,
ouais.
Eh bien le permafrost dégèle. Et tout ce qui est dessus se casse la figure. Ce sont des villages qui s'enfoncent. Et c'est par endroits, effectivement, il a fallu inventer un terme. Des forêts qui tombent. Avec des arbres, une forêt qui ressemble, vous savez, à ce jeu qui s'appelle le Mikado, une espèce de grand Mikado géant. Et ça fait partie, effectivement, des manifestations du réchauffement climatique que j'ai observé avec, j'ai envie de dire, mes yeux et mon cœur, et qui m'ont donné envie de parler, effectivement, de cette inquiétude qui est la mienne et qui est de plus en plus grandissante.
Et alors, à cause de ce phénomène de forêt ivre, donc, eh bien, le permafrost fondant, il y a du méthane dans l'air qui s'échappe et qui alimente considérablement l'effet de serre, c'est ça ?
Quand je disais que c'était une manifestation concrète et visuelle, il y a un certain nombre de phénomènes bien plus inquiétants, dont effectivement le fait que sous ce permafrost, sous cette couche de sol, est piégé depuis des milliers d'années un gaz à effet de serre qui s'appelle le méthane, qui se trouve du coup mélangé au gaz que nous émettons nous-mêmes par la combustion des énergies fossiles, ce qui provoque effectivement encore plus de dégel de permafrost, donc encore plus de méthane qui est dégagé. Et donc on est en train de rentrer actuellement dans un phénomène d'emballement dont les conséquences ont été d'ailleurs étudiées, simulées par les membres du GIEC et qui nous disent que si nous dépassons la barre fatidique vers lequel on se dirige d'un réchauffement de 2,5 ou 3 degrés, nous n'irons pas vers 2,5 ou 3 degrés, mais vers 6 ou 7 degrés, ce qui aurait pour conséquence la disparition d'environ 98% des espèces qui habitent cette planète, dont bien évidemment l'homme, avec seulement quelques fourmis, scarabées qui resteraient sur cette planète.
Bon, Nicolas Vanier, longtemps, le Grand Nord a été votre terre de prédilection, souvent avec des expéditions héroïques qui tenaient du voyage initiatique. Alors, j'essaie de reprendre dans l'ordre. Par exemple, traverser en canoë du Grand Nord québécois, traverser Nouveau-Québec-Labrador avec des traîneaux à chiens, expédition au fin fond de la Sibérie, voyage hallucinant à travers les Rocheuses jusqu'en Alaska, en compagnie de votre épouse et de votre bébé d'un an. Expédition de 8600 km en traîneau à chien de l'Alaska jusqu'au Québec. Odyssée sibérienne, alors là, hallucinante, de 8000 km avec un attelage de 10 chiens et une arrivée triomphale au cœur de la Place Rouge face au Kremlin. Et puis dernière expédition, eh bien l'Odyssée sauvage, toujours en traîneau à chien, qui passe par le nord de la Chine et puis la Mongolie jusqu'au lac Baïkal. En fait, on comprend, vous êtes porté par cette passion de découverte, mais vous avez couru après quoi pendant toutes ces années ? De défis permanents.
Je ne sais pas
tout
ce sont des défis.
Tout à l'heure, vous avez écarté la notion de dépassement de
soi.
Oui,
j'aime pas la notion, effectivement, qui a été utilisée d'héroïque, de défi, parce que c'est voilà, une passion très profonde qui est la mienne, qui est effectivement de traverser avec ses moyens de déplacement naturels et respectueux des territoires, ces grands espaces qui me nourrissent. C'est mon église, c'est ma religion.
C'est votre église. Elle
et
est belle, la formule.
J'ai trouvé au travers de ces territoires des rencontres que j'ai pu y faire. Pour exemple, j'ai vécu pendant 2 ans avec des nomades éleveurs de rennes qui vivent au fin fond de la Sibérie, aujourd'hui encore sans argent.
Les évêques.
Qui ont pour toute richesse leurs rennes. Et j'ai vécu au milieu d'un peuple profondément heureux. Et donc, c'est pour ça que j'emploie ces termes, que j'y ai trouvé un équilibre, que j'y ai puisé une force et que j'y ai surtout connu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir.
Alors, dans la liste que je viens de donner de vos expéditions héroïques, il y en a 2 vraiment qui m'intriguent. D'abord, j'aimerais comprendre comment on peut entreprendre un voyage d'un an à travers les Rocheuses et le Yukon, jusqu'en Alaska, donc loin de toute civilisation, et loin d'un hôpital, avec un bébé, baptisé d'ailleurs joliment Mountain, un bébé qui a 1 an au début de l'expédition.
Tout simplement parce que lorsque vous prenez la décision, que j'ai prise d'ailleurs très tôt, d'avoir une famille, une femme et des enfants, vous avez envie de leur faire partager, d'essayer en tout cas de leur faire partager cette passion qui était la mienne, immense, qui était partagée par ma femme. Et donc, tout naturellement, nous avons emmené avec nous notre petite fille qui a eu déjà cette incroyable chance de pouvoir vivre pendant 1 an et demi, 24 heures sur 24, avec ses parents. Dieu sait si c'est quelque chose qui est devenu rare, qui a eu cette chance aussi de pouvoir chanter avec les loups, ce qu'elle a fait,
chanter
de pouvoir
avec les loups, mais justement,
avec les oiseaux.
Dans la nature, et surtout quand on traverse les Rocheuses, la faune sauvage, elle est dangereuse. Il y a des ours, il y a des pumas. Alors, j'ai vérifié, le puma, il peut courir jusqu'à 80 km/h. Et même les coyotes sont dangereux, surtout pour un tout petit enfant.
Mais considérer que la nature est dangereuse est quelque chose que l'on peut comprendre, mais personnellement, je considère que la vie en ville est beaucoup plus dangereuse. Et je peux vous assurer que la seule fois où ma petite fille a été malade pendant 1 an et demi, mais c'est vrai, c'est lorsqu'on a atterri à Roissy et qu'elle a chopé tous les microbes de la terre.
Incroyable.
Et qu'elle a attrapé un énorme rhume et qu'elle avait 40 degrés de fièvre.
Mais incroyable.
Ma petite fille a vécu extrêmement heureuse. On n'a jamais eu, même s'il y a eu bien évidemment quelques incidents, mais jamais d'accidents.
Oui.
Très bien, parce que la nature, encore une fois, n'est pas un milieu hostile et impropre à l'éducation d'un enfant.
Alors, juste avant de faire une pause, la deuxième expédition qui m'intrigue vraiment et me fascine, c'est votre odyssée de 8000 km à travers la Sibérie, par température extrême, avec un attelage de 10 chiens, et votre arrivée follement romanesque, Nicolas Vanier, le 19 mars 2006, sur la Place Rouge à Moscou, avec un gigantesque chemin de neige reconstitué exclusivement pour vous et vos chiens devant le Kremlin. Ce fut plus grandiose que n'importe quelle superproduction qu'Hollywood pourrait imaginer.
C'était assez incroyable et bouleversant, effectivement, que la Russie me fasse cet honneur. Et lorsque j'ai pénétré sous cette arche et que j'ai vu ces centaines de soldats de l'armée rouge au garde à vous, que je suis rentré sur cette place mythique, que j'ai eu cet accueil d'un pays que j'aime, d'hommes que j'aime, que sont ces Russes avec cette âme que l'on connaît, ça a été pour moi un moment effectivement assez, quand je dis assez, c'est beaucoup
vous
plus que ça,
pleuré.
Absolument incroyable et bien évidemment qu'on ne peut pas et qu'il ne faut pas retenir ces larmes d'émotion lorsqu'on vit un moment pareil.
On retrouve tout de suite Nicolas Vanier.
Europe 1. 15h41, la conversation entre Isabelle Morizet et son invité se poursuit jusqu'à 16h sur Europe 1. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
On voyage vraiment sur les ondes d'Europe 1 cet après-midi grâce à Nicolas Vanier, aventurier, cinéaste et romancier qui est mon invité. Nicolas Vanier, vous mourriez si vous deviez vivre en ville ?
Non, il m'arrive de vivre en ville et j'ai un grand plaisir de temps en temps à y retrouver quelques copains pour aller dans un bon restaurant,
voilà,
à aller au cinéma
souvent.
Ou au théâtre. Mais effectivement, je deviens très vite mal à l'aise lorsque ça dépasse, on va dire, 3, 4, 5 jours et que j'ai besoin de me ressourcer en allant notamment, en tout cas en France, chez moi, dans ces arbres, dans cette forêt qui est la mienne, la Sologne. J'ai besoin d'avoir les pieds sur terre dans tous les sens du terme.
Alors, vos contemporains, eux, désertent volontairement les campagnes. Je me suis renseignée et j'ai appris que 83% des Français vivent aujourd'hui dans des villes. Ce phénomène, vous le constatez justement dans la région de votre enfance, que vous habitez toujours, la Sologne ?
Oui, c'est un territoire un petit peu particulier parce que j'ai envie de dire malheureusement, et j'espère que les Parisiens m'en voudront pas, mais c'est très proche de Paris et que c'est devenu un petit peu comme certaines zones de la côte ou des montagnes où les Parisiens viennent passer le week-end. Donc c'est assez désert la semaine et un petit peu plus occupé, notamment malheureusement en période de chasse, en plein hiver.
Vous avez traversé de part en part le Canada. Ce phénomène de désertification complète des campagnes, vous l'avez constaté de manière encore plus redoutable au Canada ?
C'est sidérant, oui, et d'où ce premier film long-métrage que j'ai réalisé qui s'appelle « Le dernier trappeur ». Et lorsque j'ai traversé de part en part, d'ouest en est, le Canada, si je l'avais fait il y a un siècle, j'aurais rencontré presque tous les jours une cabane. Mmh. J'aurais recroisé chaque semaine un petit village. Aujourd'hui, je n'ai vu que des ruines. Et durant des mois entiers, c'est des déserts que j'ai traversés. Et je sais que beaucoup de personnes qui nous écoutent vont penser « mais c'est formidable de se dire qu'il y a des espaces sauvages de plus en plus grands ». Mais non, justement, parce que ce qui fait la beauté et la grandeur de ces paysages, ce sont ces hommes qui vivent encore et qui savent encore vivre en harmonie avec ces territoires. Et c'était encore une fois l'un des sujets de ce premier film.
Nicolas Vanier, donc les campagnes sont désertées, mais les campagnes ne sont plus sacrées non plus. Les éoliennes, les routes, les voies ferrées, les abattages. Bon, est-ce qu'en Sologne, vous vivez, vous constatez toutes ces gangrènes ?
En Sologne, bien évidemment qu'on ne se trouve pas à l'écart de tout cela. Nous connaissons en Sologne une situation absolument dramatique et que la Sologne est clairement en train de mourir à cause d'une petite vingtaine, trentaine de très grands propriétaires qui sont pour 99% d'ailleurs des Parisiens, grands patrons de très grandes sociétés, qui sont devenus propriétaires de grands territoires et qui ont
surtout de forêts,
posé de forêts et qui ont posé tout autour de leur territoire des grillages pour fabriquer des sortes d'enclos, de grands zoos à l'intérieur duquel ils achètent beaucoup de sangliers pour pouvoir le dimanche faire ce qu'ils appellent des chasses, que j'appelle des kermesses cynégétiques, avec des tableaux de 50, 80, 100 sangliers par dimanche. Et donc la Sologne, à cause de ses propriétaires, est devenue un espèce de grand labyrinthe à l'intérieur duquel les animaux sauvages qui faisaient la grandeur de ce territoire, les cerfs, les sangliers, ne peuvent plus circuler. C'est un véritable
drame. Ils ne peuvent plus traverser les bois, en sortir.
Je m'en suis ouvert à tout le monde, à Emmanuel Macron lui-même qui est venu à Chambord, à Nicolas Hulot lorsqu'il était ministre, au président de la Fédération des chasseurs, au président Bonneau, qui d'ailleurs travaille à mes côtés pour essayer de trouver une solution. La terre entière est d'accord qu'il faut trouver une solution.
Mais on ne la trouve pas.
Mais le lobbying, le Sénat, les députés, qui font partie d'ailleurs, pour une grande partie de ceux qui vont dans ces chasses, malheureusement, mettent des freins à une loi qui nous permettrait de mettre fin à cette situation absolument dramatique.
Nicolas Vanier, avant le tournage de votre avant-dernier film, qui avait pour titre L'école buissonnière, vous avez invité donc dans votre ferme en Sologne François Cluzet, acteur magistral qui est à l'affiche de ce film et qui devait incarner un braconnier. Et il paraît qu'à peine arrivé de Paris, en fait le soir même de son arrivée chez vous dans votre ferme, vous avez dit à François Cluzet voilà de mettre une bonne veste et vous l'avez embarqué de nuit dans la forêt profonde à la rencontre des sangliers. Elle s'est passée comment ? L'initiation, parce qu'on peut parler d'initiation.
C'était formidable parce qu'on a eu de la chance. François, effectivement, est arrivé à la tombée du jour. Je lui ai aussitôt qu'il est descendu de voiture, mis une paire de bottes. Je lui ai donné une paire de jumelles et puis on est parti dans la forêt cette fin de journée. Et très rapidement, j'ai trouvé des traces d'une petite harde de sangliers avec des jeunes marcassins. Et on s'est approché et on a réussi à voir cette harde où notamment des petits marcassins étaient en train de manger des fourmis dans une fourmilière. Donc c'était un moment magique.
C'est
on a
trop...
pu s'approcher.
Ça n'est pas dangereux.
Une
vingtaine de... 20 mètres, c'est pas trop dangereux.
Non, pas du tout. Il suffit de savoir approcher. Et d'ailleurs, ce qui m'a profondément marqué, c'est de voir que, bien évidemment, François regardait cette scène magnifique de ces petits marcassins en train de jouer, de manger des fourmis autour de cette fourmilière. Mais il regardait aussi beaucoup la façon avec laquelle je marchais, je regardais, j'approchais, parce qu'il était déjà en train de faire son travail, qui
est celui du rôle.
De l'acteur, de s'imprégner du rôle, d'essayer de se mettre dans la peau d'un personnage de la forêt que je suis devenu un petit peu tout de même après 56 ans dans la forêt.
On retrouve tout de suite Nicolas Vanier, aventurier, romancier, cinéaste.
Europe 1. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, la suite est fin. On retrouve Isabelle Morizet qui reçoit cet après-midi l'aventurier, cinéaste, écrivain Nicolas Vanier.
Nicolas Vanier, bon, je pose la question à celui qui a, dans sa vie, parcouru 70 000 km en traîneau à chien à travers les grands espaces enneigés des pays du Grand Nord. Honnêtement, les yeux dans les yeux, quelle place reste-t-il pour l'aventure, la grande, la vraie, dans le monde actuel où tout est contrôlé, balisé, les satellites observent chaque mètre carré de notre planète? Est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir ?
Bien sûr, et la plus grande aventure, c'est de se découvrir soi-même. Pour certains, la grande aventure, c'est de partir.
Alors c'est toujours se découvrir soi-même, la grande aventure.
Descendre la Loire en canoë.
Certes.
Pour d'autres, c'est la Sibérie. Et nous évoquions tout à l'heure le fait que le Canada était de plus en plus sauvage, qu'il y a de plus en plus de pays, effectivement, où le sauvage prend le dessus sur le civilisé. Et puis, au-delà de ça, il reste des espaces à explorer qui sont les mers, qui sont l'espace. Donc, bien sûr qu'il reste de la place pour l'aventure.
Alors, vous avez effectivement parcouru 70 km en traîneau à chien à travers les grands espaces enneigés. Vous avez caressé les nuages avec la dernière aventure avec des oies sauvages, donc, qui a donné lieu à un film et un roman baptisé « Donne-moi des ailes ». Mais est-ce que les mystères des grands fonds marins et des abysses vous attirent ou vous effraient un peu ?
Non, je n'ai jamais été extrêmement à l'aise avec la mer, même si j'ai beaucoup d'admiration et qu'on emploie un langage commun avec les grands marins. Mais il m'est arrivé d'aller nager avec des dauphins, pas dans des piscines, mais dans des zones totalement sauvages. Et j'ai trouvé ça absolument magique.
Alors, quand on regarde votre filmographie, Nicolas Vanier, Belle et Sébastien, L'école buissonnière et récemment donc Donne-moi des ailes, eh bien, on se dit que le paradis perdu, c'est pour vous autant l'enfance que la nature. Vous êtes devenu aventurier pour ne jamais devenir un adulte en costume ?
C'est certain que j'aime les personnes qui ne se prennent pas au sérieux, qui conservent cette âme d'enfant, qui se traduit pour moi par le fait de pouvoir continuer à rêver. Je crois que c'est quelque chose d'important, de conserver cette espèce d'émerveillement qui est celui d'un enfant qui, pour la première fois, voit des petits marcassins manger des fourmis. Et j'ai conservé cette âme d'enfant. C'est elle qui continue à me donner cette envie que j'ai de réaliser des rêves, parce que j'en ai encore plein.
Alors justement, parlons des projets. Où en est la préparation du prochain film qui s'emparera d'un héros qu'ont bien connu les quinquas quand ils étaient enfants, Polly ?
Ce projet avance.
Parce que c'était une série, n'est-ce pas,
Polly ?
Voilà, dans les années 60.
C'est une série que Cécile Aubry a effectivement écrite après avoir écrit Belle et Sébastien, dont j'ai fait une adaptation pour le cinéma il y a quelques années. Et là, je me suis pris en quelque sorte d'amitié pour cette histoire que je connaissais bien, qui a, elle aussi, bercé mon enfance, qui est cette histoire d'amour, une fois de plus, entre un enfant et un pauvre petit poney martyrisé dans un cirque.
Bon, la dernière phrase prononcée dans votre film « Donne-moi des ailes » est une phrase qu'on attribue toujours à Saint-Exupéry, alors qu'en réalité c'est un proverbe amérindien. C'est « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants ». Pour l'instant, l'homme n'est qu'une espèce nuisible aux autres espèces. Mais vous êtes confiant, honnêtement, ou vous vous faites semblant d'y croire ?
Non, non, j'étais encore confiant il y a quelques années. Je le suis de moins en moins parce que ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Ce sont tous les scientifiques qui ont remis, notamment il y a quelques semaines maintenant, un rapport extrêmement précis, détaillé, avec des simulations qui sont faites sur l'avenir, qui sont effectivement plus qu'inquiétantes, puisqu'ils nous disent clairement que nous avons 10 ans pour enrayer un système qui va nous conduire au désastre. Mais on ne change rien. On sort vaguement de temps en temps une petite boîte à outils lors des sommets qui réunissent les grands de ce monde pour changer quelques petites pièces de la voiture. Mais c'est la voiture en entier qu'il faut changer. C'est le système qu'il faut changer, dont on sait qu'il ne peut pas continuer comme ça. Et tout le monde est d'accord sur le fait qu'on ne peut pas continuer à consommer en 8 mois ce que la Terre produit en 12. Ce n'est pas possible. Ça va nous conduire à une faillite qui est inéluctable, dont on connaît définitivement les conséquences pour nos enfants et nos petits-enfants. Et donc, je ne comprends pas et je suis de plus en plus inquiet parce que 10 ans, c'est demain.
10 ans, c'est demain. Bon, on va agir. En attendant, déjà, allons dans les salles voir votre nouveau film « Donne-moi des ailes » avec à l'affiche Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutet, Louis Vasquez. Et puis, on peut plonger, bien sûr, dans le roman qui porte le même titre et qui paraît chez XO Éditions. Merci infiniment. À très vite, Nicolas
Merci
Vanier.
De m'avoir reçu et avec un grand plaisir.
C'était Lien Pâques, une vie dans la vie. Isabelle Morizet revient demain avec un duo d'invités, un père et un fils, deux plumes qui ont écrit à quatre mains le dictionnaire amoureux de Marcel Proust, publié chez Plon et qui sort en livre de poche. C'est Jean-Paul et Raphaël Antoven. À suivre les infos et l'équipe est sauvage de Mathieu Noël. Europe 1.